Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sony qui rachète Bungie, Dying Light 2 qui arrive, on a aussi des nouvelles histoires sur les NFT, des résultats complètement fous du côté de Nintendo et tout le reste de l'actu gaming, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 226, nous sommes en février 2022, là. Le début d'année de folie, ça ne s'arrête pas. J'ai vu un mème passer quelque part. C'était, vous savez, ce mème avec Tintin et Captain Haddock, où Captain Haddock dit « Oh, eh bien, quelle semaine !» Et Tintin qui lui dit « Mais on n'est que mercredi, Captain. » Et là, c'est pareil, sauf que c'est « Ah, mais 2022, quand même, c'était fou !» Et la réponse, c'est « Mais on n'est que en janvier, Captain. » C'est complètement fou, il se passe des trucs dingues. Le dernier en date, c'est évidemment le rachat de Bungie par Sony, dont on va parler immédiatement. Il y a quelques jours encore, je pensais que Dying Light 2 serait le plus gros sujet qu'on aurait à couvrir. Eh ben non, les choses se transforment. Avant de dire bonjour aux co-animateurs de l'émission, qui sont là, fringants et prêts, je voudrais quand même remercier Damien Mathias qui a rejoint l'équipe des Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement sur patreon.com/rdvjeux. Merci beaucoup à toi Damien et à tous ceux qui le font. Et bien sûr, le producteur vénérable de cet épisode, Steph Sinalco, qui a trouvé le niveau secret caché des soutiens qui lui permet d'être mentionné chaque mois. Merci à lui et à tous les patriotes qui permettent à cette émission d'exister. C'est grâce à vous. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour, JK. Comment vas-tu ? Est-ce que tu m'as manqué, mon bon JK ?
Yes. Bonjour. Ouais, pareil, tu m'as manqué, Patrick, aussi. Je suis très content de revenir. Et en plus, on va parler de plein de trucs. On va parler de Dying Light 2, parce que j'ai envie d'en parler. J'avoue que j'ai beaucoup envie de parler de ce jeu, donc j'ai pas encore l'occasion d'en parler beaucoup.
Très bien, très bien. Donc, c'est ça le... Voilà, j'ai hâte. Le truc des podcasts, c'est qu'on a envie de parler des trucs, on peut pas s'en empêcher. Et donc, je canalise les désirs de JK, vidéo ludique, hein, en tout bien tout honneur, dans l'émission. Merci d'être là. J'ai une question à te poser quand même. Sur Twitter, le compte ZQSD a posté la meilleure analyse que j'ai lue sur la mouvance autour des NFT dans le jeu vidéo ces dernières semaines. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine? C'est toi qui l'as fait?
Non.
Non, c'est pas toi.
Non, le community manager de ZQSD, souvent, c'est Corentin. Donc,
d'accord. Écoute,
je t'avoue, je n'ai même pas vérifié, mais le connaissant, c'est lui qui a écrit ça, c'est sûr.
Le tweet était formidable. On parlera un petit peu de NFT en fin d'émission. On va pas vous imposer ça tout de suite, mais juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne en ce moment. L'annonce, le communiqué de presse officiel de ZQSD, c'était ZQSD. Ils ont fait un tweet pour annoncer deux choses. ZQSD se lance dans les NFT.
Je lis ou pas ?
Mais tu peux, vas-y, fais une interprétation dramatique.
Je l'ai sous les yeux. Deux grosses annonces à vous faire ce soir. Le lancement d'une série exceptionnelle de NFT ZQSD, mise à prix de 0,1 dollar cro, KRO. Bon, voilà. Et juste en dessous, l'annulation du lancement du NFT ZQSD, ainsi que plus plein d'excuses.
ça encapsule bien un petit peu le...
Le pire, c'est que c'est à peine une blague, parce que c'est littéralement ce qu'on fait plein de
trois, quatre sociétés différentes.
De ces derniers jours.
On va en parler un petit peu plus tard, en fin d'émission. En attendant, il faut tout de même dire bonjour à ALS, Alex Lassina-Foubert, que je n'en reviens pas que ça soit la première fois que tu es dans l'émission. Qu'ai-je fait de mon temps pendant toutes ces années? Je ne sais pas, mais je le regrette et on corrige cette erreur. Bienvenue, Lou.
Oh, pas de regret, écoute, je suis là aujourd'hui, c'est le principal. On a enfin réussi à trouver un moyen de se coordonner et c'est bon, ça y est, je suis là, je suis en direct. Et salut le chat aussi au passage. Et tu peux m'appeler Alex ou Lou comme tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais. Je sais que tu vas avoir du mal à utiliser mon prénom, le vrai, mais il n'y a pas de souci.
Ça marche, du coup, Alex ou Lou, vous saurez que c'est ALS, alias LLF. Merci, très heureux de t'avoir. Et effectivement, le chat est là aussi, puisqu'on est en live tous les jeudis midi. Le mardi, c'est le rendez-vous tech, donc tous les jeudis midi. Très heureux de vous avoir pour participer à l'émission avec nous. Et enfin, le dernier participant, mais non le moindre, c'est dangereux de dire ce genre de choses, parce que du coup, c'est qui le moindre tout à coup, on commence à se poser la question. Peu importe, je distrais tout le monde en disant que nous recevons pour la première fois Bugland, YouTuber de renom. Comment vas-tu, Bugland? Heureux de t'avoir ici.
Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Bonjour le chat.
Très heureux de t'avoir. J'ai beaucoup apprécié ton test de Dying Light 2, donc tu pourras nous en parler également avec JK. Et peut-être que tu auras quelques mots à dire aussi sur les NFT. Tu as fait des vidéos très détaillées sur les sujets. On en parlera effectivement tout à l'heure. C'est marrant parce que j'ai fait un édito réservé aux Patriotes d'habitude. Enfin, celui-là, il était disponible pour tout le monde. Donc, si vous voulez aller sur la plateforme Patreon pour l'écouter, j'ai fait un édito où je détaille les impacts de l'économie des NFT, enfin, des NFT sur l'économie des jeux vidéo et en quoi ça ne peut qu'être néfaste mécaniquement pour l'économie interne des jeux. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses que tu disais aussi dans la vidéo sur le sujet que j'ai regardé tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en synchronisation intellectuelle, toi et moi, donc je suis sûr que ça va très bien se passer.
Ah, waouh, tu commences direct. Tu prends par les sentiments tout de suite.
Oui, je sais mettre les gens à l'aise. Alors, la grosse news, allez, on se lance quand même dans les informations. On va parler tout de suite de ce qui se passe dans le monde de l'actu du jeu vidéo. Le monde de l'actu du jeu vidéo, c'est très bien dit. C'est bien sûr l'annonce d'un rachat cataclysmique qui va changer véritablement la face du monde du jeu, de l'univers. Et c'est bien sûr, je veux parler du rachat de Wordle par le New York Times, qui a été racheté pour 1 ou 2 millions de dollars, quelque chose comme ça. Bon, j'en plaisante, mais en même temps, c'est quand même un truc important. Hein, et les jeux casual de ce type-là, ils sont extrêmement importants. Et le fait que le New York Times ait racheté ce mot croisé des temps modernes, c'est pas complètement négligeable non plus, je trouve. Mais bon, évidemment, ce dont je veux parler, c'est le rachat de Bungie par Sony, pour 3,6 milliards de dollars. Vraiment, il y a deux semaines, on se disait « Oh, mais quel achat incroyable, c'est complètement fou, Microsoft qui rachète Activision Blizzard !» Effectivement, c'était pour une somme beaucoup plus élevée. Mais au niveau symbolique et même importance, le fait que Sony rachète Bungie, c'est peu importe la somme, c'est quand même évidemment quelque chose d'inattendu et qui transforme un petit peu le paysage vidéoludique. Enfin, je dis inattendu, les auditeurs les plus assidus se souviendront qu'il y a quelque temps, je disais, mais Sony doit également racheter des propriétés, étoffer son offre de contenu. Qui pourrait racheter ? Et je suggérais, pas juste pour la blague, parce que vraiment c'était logique, qu'il pourrait racheter Bungie et que c'était un rachat possible, parce que tous les rachats ne sont pas possibles et cohérents. Et bon, je ne veux pas dire que Jim Ryan m'a téléphoné pour me dire « Écoute, ton idée est géniale, si on te file une petite partie, un petit pourcentage du deal, est-ce que tu acceptes qu'on le fasse parce que c'est toi qui l'as suggéré, donc tu en as la paternité ?» Et bon, je ne vous dirai pas la suite de sa conversation, mais vous pouvez vous en douter, vu que le deal s'est fait aujourd'hui. C'est un rachat qui est beaucoup plus simple à confirmer que pour Microsoft et Activision, puisque Bungie est une société privée. Donc, je ne sais pas comment ils sont arrivés au chiffre de 3,6 milliards de dollars. J'ai aucune idée de comment on évalue ce genre de choses. C'est genre, bon, 3, c'est un peu trop peu, 4, ça fait beaucoup, on s'arrête sur 3,6. Et, bon, encore plus que pour une société publique pour laquelle tu as une valeur de l'action, une valeur boursière sur laquelle te baser. Mais ça a énormément d'implications, évidemment. On peut faire plein d'interprétations. Ce qui marque le plus dans cette histoire, je crois, si on remonte un tout petit peu dans les années, on remonte jusqu'à des années 90, c'est que Bungie, ils ont eu un parcours vraiment assez rocambolesque. Ils ont commencé avec des jeux sur Mac, pour ceux qui s'en souviennent, ils avaient fait Marathon. C'était quoi ? C'était... comment il s'appelait le jeu de stratégie ? Ils avaient fait sur Mac aussi, je me souviens.
Myth,
c'est ça. Myth.
C'était une espèce de... C'est un peu l'ancêtre des Total War, en fait, en termes de gameplay. Mais bon.
Voilà.
En tout cas, sur la partie stratégie temps réel.
On a également... ils avaient présenté, en fait, Halo sur Mac. À l'origine, c'était un jeu qui était censé arriver sur Mac. Et ils ont bien sûr été rachetés par Microsoft pour faire de Halo ce qu'il est devenu, le jeu emblématique de la Xbox qui a amené les FPS véritablement sur console de manière vraiment convaincante, etc., etc. Ils sont repartis de Microsoft. Alors, je ne sais pas qui est à la tête de ces deals pour Bungie, mais c'est une personne complètement exceptionnelle. Microsoft qui laisse partir Bungie... C'est genre, mais comment ? Quoi ? Comment ? Enfin, à l'époque, c'était déjà incroyable. Ils ont signé un deal monumental avec Activision. Vous vous souvenez, quand ils ont, après plusieurs jeux Halo, ils sont partis chez Microsoft, ils ont annoncé Destiny en deal avec Activision, un deal de publishing, d'édition, et ils disaient, Destiny représente les 10 prochaines années de notre aventure. Et c'était un petit peu genre, ok, 10 ans, ouais, très bien. T'as raison, mon gars. Et effectivement, on y arrive aux 10 ans, il est sorti en 2013, si je ne m'abuse. Et... En quoi, 2015-2016, ils ont quitté, un petit peu après même, de 17 ou 18, ils ont quitté, et même peut-être plus, 19, bref, ils ont quitté, rompu le deal avec Activision, et là encore, ils sont partis sans aucun problème, sans aucun drama, sans, je sais pas, quels emails le mec qui fait les deals a sur les responsables d'Activision et de Microsoft. Enfin, Activision, peut-être qu'on sait maintenant, les squelettes qu'ils avaient dans les placards. Mais ils ont réussi à redevenir indépendants. Ils ont continué à faire croître Destiny, ou en tout cas réussir le développement de Destiny. Ils ont annoncé quelque chose comme 1 million de précommandes pour l'extension qui arrive le 22 février, la Reine Sorcière. Et donc maintenant, rachetés par Sony, c'est un parcours, ils sont passés par tout. Ils sont passés par Microsoft, par le publishing avec Activision, et puis maintenant chez Sony. Il faut préciser que ce rachat n'intègre pas Bungie au PlayStation Studios. Ils ont été très clairs sur le fait que Bungie allait opérer en tant que société indépendante et qu'ils allaient continuer à développer leurs jeux en multiplateforme et que leurs jeux actuels seraient en multiplateforme, mais qu'en plus de ça, leurs jeux en développement aujourd'hui, parce qu'on sait qu'ils en ont au moins un en plus avec Tencent en développement, seraient aussi en multiplateforme et que l'idée, c'est vraiment de laisser... Bungie développer ses trucs dans leur coin et peut-être même les aider à s'étendre vers le cinéma, plus de médias différents, ce genre de choses. On sait que Sony, bien sûr, a des studios, cinéma et télé. Bon, pourquoi pas ? Il y a du lore dans Destiny, une lore un petit peu compliquée, mais ça pourrait peut-être donner quelque chose. Du coup, ça pose un petit peu la question, pourquoi est-ce que Sony paye 3,6 milliards de dollars pour Bungie si c'est pour les laisser mettre leurs jeux partout et se développer en multiplateforme et pas en retirer de bénéfices directs en les rendant exclusifs. Parce que je les crois là, c'est sincère et j'ai l'impression que... Alors, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans 4-5 ans, mais à ce stade, en tout cas, il semble que ça soit quelque chose d'établi, qu'ils ne vont pas ramener Bungie en interne et rendre leur jeu exclusif. Je ne sais pas qui veut prendre la question, parce que ce n'est pas facile. Est-ce que quelqu'un a une idée sur les raisons pour lesquelles Sony se lance dans cette opération ?
Les raisons me font peur, personnellement, justement.
Alors, commençons par la peur. Vas-y, Bugland, ouais. Qu'est-ce que tu penses ?
À titre, là, c'est vraiment très personnel. Hein. Moi, je suis pas trop fan des jeux service en temps normal. Du coup, de la conception de Destiny même, un jeu qui tient sur 10 ans et ce genre de choses. Et on sait que Sony, ça fait un moment qu'ils essayent de trouver un jeu service et de trouver les moyens d'en produire. Et pour moi, c'est la raison principale de l'acquisition, même s'il y a les compétences FPS, c'est certain, du côté de chez Bungie. mais je pense plus qu'ils vont chercher les compétences pour créer du jeu service. Et récemment, ils ont officialisé le fait qu'ils avaient envie d'en publier une bonne dizaine, si je ne me trompe pas.
C'est ça, oui. Il parlait d'une dizaine d'ici 2006. Alors, on compte bien sûr peut-être Destiny et d'autres projets de Bungie là-dedans qui sont dans ce cadre aussi. On sait que certains des studios internes travaillent sur des jeux au moins multi, peut-être service. Mais oui, clairement, il y a une orientation dans cette direction. Et toi, ça te fait peur ?
Et moi, ça me fait peur parce que c'est pas un style qui, selon moi, fonctionne bien. C'est pas un style qui génère des grands jeux et c'est un genre qui est vachement porté sur la microtransaction et ça me plaît beaucoup moins. Et j'espère que ce ne sera pas une source de contamination à l'avenir pour tous les studios de chez Sony, en fait. C'est surtout ça ma crainte.
Ouais. Alors, c'est un genre qui fonctionne. Comme tu dis, qui ne fonctionne pas forcément bien, ça dépend pour qui. Parce que pour le coup, effectivement, je pense
que bien sûr.
Le côté money,
pas forcément réussi, pas forcément raté. Ouais. Ouais.
Jika, tu voulais dire quelque chose aussi ?
Non, bah effectivement, j'approuve que venir Bugland, évidemment qu'il s'achète aussi, et surtout même un savoir-faire donc pour des gens qui savent faire des jeux de service.
C'est clair.
Après, moi, je suis un peu moins inquiet. Alors, moi, le jeu de service, je ne suis pas contre, mais c'est qu'effectivement, ce n'est pas du tout mon style de jeu. Je ne suis pas trop inquiet parce que je vois mal Sony quand même faire un virage à 100% là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un tel savoir-faire sur le jeu solo, AAA, narratif, etc., avec Naughty Dog, avec Santa Monica, avec Guerrilla, etc.
Bah, tous leurs studios sont très concentrés sur les expériences
voilà,
solo. Hein,
voilà. Et ces studios-là vont aussi continuer à faire des jeux comme ça, j'en suis à peu près sûr. Après, ils vont instiller peut-être, ils vont instiller, oui, ça se dit, du jeu service peut-être dans certaines licences. On parlait par exemple on sait par exemple que Naughty Dog travaille sur une version multijoueur de The Last of Us, si je dis pas de bêtises. On peut très bien imaginer, et là, ça pourrait éventuellement coller en termes de formule, que Bungie vienne apporter leur savoir-faire pour comment faire un bon jeu multi dans cet univers avec un côté jeu service. Là, pourquoi pas. J'espère qu'ils sont intelligents, en tout cas, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour pas trop mélanger les choses et faire ça correctement. Donc voilà, moi, je suis pas trop inquiet là-dessus. Et moi, juste ce qui m'a fait vraiment, je pense que j'ai encore plus bugué. Enfin, disons, bon, quand Microsoft a racheté Activision, je pense que j'ai eu ma mâchoire qui s'est décrochée.
Ouais, comme tout le monde, t'as eu un temps, genre une minute de réalité que t'as perdu parce que t'étais tellement.
Exactement.
Ton cerveau s'est arrêté. Quoi, comme tout le monde dans notre industrie.
Mais par contre, quand j'ai lu la news, c'était le soir, hein, donc j'étais chez moi et tout, quand je vois la news Sony rachète Bungie, vraiment, j'ai pas compris, tu sais, à un moment donné. Mais c'est impossible, parce qu'en fait,
c'est quoi,
dans ma tête, ouais. peut-être parce que je suis un vieux, mais dans ma tête, Bungie, ça reste vraiment tellement attaché à Microsoft, ouais. En fait, et au PC, même par rapport à de là où ils viennent, enfin, à l'ordinateur en tout cas, que vraiment, tu sais, je me dis, attends, mais c'est pas possible, ils peuvent pas. Et en fait, après, je me suis dit, mais si, ils peuvent, en fait. Et ça me paraissait tellement, et effectivement, c'est tellement. Enfin, de prime abord, ça semble tellement éloigné en fait de ce que représente aujourd'hui la marque PlayStation en termes d'expérience vidéoludique que ouais, j'ai vraiment mis un moment à me dire ah ouais, non, mais en fait, ok, ils l'ont vraiment fait quoi. Et après, avec le recul, quand tu réfléchis un peu, que tu lis 2-3 analyses, c'est effectivement ça a vachement de sens parce que aujourd'hui, PlayStation, ils n'ont plus besoin de racheter des studios qui savent faire des jeux solo, AAA, narratif, etc. Ils ont largement le savoir-faire en interne. Parce que ce qui leur manquait, c'était un studio comme Bungie, effectivement. Et ça a vraiment du sens, pour le coup.
Ouais. Il faut avouer que Bungie a vraiment eu un parcours chaotique, mais assez admirable, je trouve, sur cette question de jeu service. Moi, contrairement à vous, je suis assez client de jeu service. Je trouve qu'évidemment, il peut y avoir des abus et ça peut être fait de manière plus ou moins élégante. Mais souvent, ça peut permettre d'avoir des expériences qu'on ne peut pas du tout espérer sur des jeux solo qu'on va finir en 20, 30, 50 heures et puis qu'on va reposer. Dans ce cas, enfin, tout le monde sait l'amour que je porte à Destiny et j'y joue depuis, enfin, on et off, mais j'y joue depuis son lancement, donc ça va être une surprise pour personne. Mais vraiment, ils ont eu beaucoup de problèmes à comprendre comment on fait un bon jeu service, comment on trouve le bon équilibre. Alors, parfois, il y a peut-être des abus et c'est peut-être encore le cas, mais dans l'ensemble, je pense que les joueurs sont assez contents du jeu aujourd'hui et ça a été un chemin long et difficile, dont cette expertise, elle ne s'invente plaisante pas, vraiment. Je crois qu'on l'a vu sur des accidents industriels comme Anthem ou enfin Anthem, c'était vraiment accident industriel du jeu service. Et même on peut le rapprocher un petit peu de Cyberpunk, où il y a eu un studio qui a été encouragé par un succès énorme et qui a du coup eu les yeux plutôt que plus gros que le ventre et qui s'est lancé dans un truc trop tôt qu'il ne maîtrisait pas, et on a vu les résultats qui étaient décevants. Et là, du coup, Sony, je pense, a l'intelligence d'aller chercher quelqu'un qui est disponible, qui en plus fait un FPS, qui a le meilleur gunplay de tous les FPS au monde. Je crois que le gunplay de Destiny est sa force qu'il a porté malgré les problèmes et les déconvenus qu'ont eu les joueurs. Et donc, il y a ça, évidemment, c'est un très bon FPS, mais aussi l'intelligence donc, de Sony d'aller chercher des gens qui savent ce qu'ils font dans le jeu service, qui ont vécu tous les problèmes. Et donc, j'imagine qu'ils vont avoir une petite strike team de Bungie qui vont pouvoir appeler quand un studio interne a besoin de savoir comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est marrant parce que Bungie avait eu des contacts avec les développeurs de Blizzard, de Diablo 3 à l'époque, pour comprendre comment on faisait un loot, une itemisation qui fonctionne. Parce qu'on se souvient qu'au début de Destiny, ça, c'était un problème aussi. Et c'est tout bête, hein, mais quand on a un jeu service qui est basé sur le loot comme un looter, faut savoir quoi donner aux joueurs, quoi leur faire espérer d'avoir, comment les motiver pour aller faire telle ou telle activité. Et tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut l'avoir fait, il faut des experts. Et là, ils ont effectivement acheté ces experts. Est-ce que, du coup, Lou, je te pose une autre question. Est-ce que tu vois un autre intérêt de Sony? Ça paraît quand même, même si c'est important, ça paraît peut-être un peu léger si c'est juste pour ça, je sais pas. Encore que, comme vous le disiez, c'est ce qui manque à Sony aujourd'hui. C'est les jeux services qui leur manquent. Et là, ils s'offrent la licence, en fait, d'en faire encore plus. Mais est-ce que tu vois autre chose en plus de ça, peut-être, Lou?
Moi, je vois deux choses. Une chose un peu anecdotique, et je trouve d'ailleurs très amusant le timing des annonces qui sont vraiment coup sur coup. Déjà, j'ai réagi comme JK lors de l'annonce déjà du rachat d'Activision Blizzard. Je croyais vraiment que c'était un fake. Les premiers, je me dis, c'est n'importe quoi, encore des rumeurs débiles. Et je vois que c'est confirmé dans la journée. Je fais, non, mais c'est pas possible. Et du coup, je sais pas, c'est que c'est 10 jours après, du coup, Sony qui annonce le rachat de Bungie. Là, je me dis, encore une petite blague juste derrière pour s'amuser, et finalement non. Et y a un côté, alors j'imagine que les tractations doivent être depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais du coup ça fait une drôle d'impression, genre tiens, puisque tu fais ça, moi j'emballe ton ex et je me le tape devant toi. Et je trouvais ça assez drôle, en fait, dans le timing. Il y a un côté un petit peu revanche, parce que comme on le disait, Bungie, c'est très très Microsoft. L'image est vraiment associée, même si les deux sociétés ne sont plus en discussion aujourd'hui. Mais c'est impossible de détacher Bungie de Halo. Et c'est peut-être le point plus sérieux que je verrai, parce que Halo, on peut se moquer des FPS sur console, mais je pense que ça a été quand même un déclencheur pour beaucoup, et aussi pour l'explosion des FPS de manière générale, parce que le marché console est quand même très important. Et c'est ce qui a quand même permis une sorte de mainstreamisation du genre. Moi, j'aurais été incapable de commencer à jouer au FPS si j'avais pas eu l'étape du FPS sur console. Vraiment, j'aurais pas pu, et j'ai vraiment commencé comme ça. Alors, c'était avec BioShock, c'était pas avec Halo, mais ça a été l'étape qui a été nécessaire pour que je puisse jouer aujourd'hui sur PC à des FPS, et j'en suis très content. Mais je pense que pour beaucoup de joueurs, peut-être comme moi, qui pour lequel c'est pas un genre qui nous intéresse peut-être davantage, et puis Halo avait un univers aussi assez différent, une approche scénaristique un petit peu différente. Enfin, je trouve que c'était quand même une étape importante.
Ouais, je suis d'accord.
Et c'est peut-être cette façon de voir le jeu, de concevoir. C'était il y a un moment déjà. Destiny m'a pas emballé du tout, par exemple. Mais peut-être qu'il y a dans ce côté créatif, dans cette approche de grand public, qui peut aussi les intéresser. Après, je sais pas. Il faut voir, le studio a évolué, évidemment, les développeurs ne sont plus les mêmes, les idéaux ne sont peut-être plus les mêmes, Destiny n'est pas forcément dans la même optique, et d'ailleurs, je me souviens, Destiny, le trailer d'annonce, c'était durant l'E3, je le couvrais pour Gamekult à l'époque, et je me suis endormi devant le trailer en direct dans l'émission. littéralement, il devait être 4 ou 5 heures du matin, mais vraiment, le jeu ne m'a pas inspiré du tout. Mais je pense que peut-être ils ont aussi cette idée de revenir à un jeu qui mettrait tout le monde d'accord à un moment, qui permettrait un petit peu d'avancer sur une étape. Même si aujourd'hui, bon, le FPS, voilà, il est quand même en odeur de sainteté.
Et d'ailleurs, à l'inverse, on peut imaginer aussi très bien que Sony et les studios autour de Sony aident Bungie à développer des trucs qui manquent chez eux en termes de, bah, de peut-être de narration, d'écriture, de création d'un lore, peut-être qui va. Enfin, je sais que moi, après, je critique pas parce que je connais pas trop Destiny, mais.
Ah non, mais tu peux. La narration, mais, enfin, ça va mieux maintenant chez Bungie, c'est voilà. Sur Destiny, mais clairement.
Clairement, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. On peut espérer aussi que Sony apporte quelque chose à Bungie là-dessus, quoi.
Ouais. Moi, il y a un autre truc que je verrais bien, c'est un atout pour Spartacus, pour leur service Game Pass-like. Ils y voient peut-être un intérêt d'avoir une offre. Jeux service incluses d'une manière ou d'une autre dans leur futur service avec un studio qui reste indépendant, peut-être qu'ils peuvent l'inclure beaucoup plus facilement dans leur offre qu'un jeu justement solo que tu joues et okay, que tu termines, qui du coup s'il est intégré dans l'offre est plus compliqué à monétiser pour Sony. Et ils disent alors plusieurs choses sur la question des rachats. D'abord, le deal était en cours depuis 6 ou 7 mois d'après ce qu'on entend, donc il semble que ça soit pas évidemment, c'est pas un truc qui s'est fait en 2 semaines évidemment. Par contre, il est pas du tout impossible que deux choses. D'une part, Bungie soit allé voir Microsoft pour dire et vous seriez pas intéressé pour faire monter un petit peu les prix. Il y a des échos de discussions avec Microsoft. Et d'autre part, il est pas impossible non plus que Sony se soit dit au moment de l'annonce du deal avec Activision, ah mais merde, maintenant on chipote plus, faut y aller, ça suffit les conneries. Faut pas que celui-là nous passe sous le nez aussi, donc qu'ils se sont dit ça a précipité le deal peut-être. Ce qui est sûr et ce qu'on entend de nombreuses sources, dont le président de PlayStation, Jim Ryan, directement, c'est pas fini. On n'a pas fini d'acheter des choses et tout le monde le dit, y compris les insiders et les gens qui savent, etc. Donc c'est pas la fin quoi. Mais bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette grosse annonce. Et si elle était arrivée avant, il y a 2 semaines, ça, on aurait passé encore 1h30 dessus. Mais bon, là, c'est juste un gros changement cataclysmique dans l'industrie du jeu vidéo. OK, un de plus. On va parler très rapidement des résultats financiers de Sony et de Nintendo. Alors, je ne vais pas vous embêter avec tous les détails, tous les chiffres, etc. Ça va bien pour tout le monde dans le jeu vidéo en général. Ce que je retiens, c'est deux choses. D'une part, Sony a été obligé de réduire ses estimations de vente de PlayStation 5 pour des questions de rupture de stock, enfin de pénurie de composants. Et il y a une chose que je dis depuis le lancement de ces consoles, c'est que oui, elles sont difficiles à trouver, mais ils en vendent plus que les consoles de la génération précédente, PlayStation 4 et Xbox One, au même moment. Eh bien, ça, c'est plus vrai. Ça a été vrai pendant longtemps. Maintenant, la pénurie les rattrape. Ils en ont vendu moins, du coup, de PlayStation 5 que de PlayStation 4 sur la même période. Et c'est évidemment à cause de la pénurie, non pas parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Donc, c'est un truc notable. Malgré ça, comme je vous disais, tout va très, très bien. Ils font encore plus d'argent que les années précédentes. Donc, on ne va pas les plaindre non plus. Là où c'est extrêmement impressionnant aussi, c'est les résultats de Nintendo, qui, pour le coup, sont un petit peu moins importants que les mêmes l'année dernière. Mais il n'empêche, ils ont vendu 103 millions de Nintendo Switch à ce stade de la vie de la console, ce qui est plus que la Wii. Sur toute la période. Oui, parce que la PlayStation 5, en fait, est arrivée à plus de ventes que la Nintendo Wii U sur toute sa période. Bon, c'est pas dur, hein, parce que la Wii U, c'est pas très bien vendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, pour renverser la balance, tout à coup, Nintendo arrive et dit « On a vendu plus de Switch que de Wii » et ils sont, a priori, en chemin pour vendre sur leur vie plus de Switch que de PlayStation 4. Les chiffres de vente de logiciels sont complètement folles aussi. On est à 766 millions de logiciels vendus. Les chiffres pour les licences lancées, enfin pour les jeux lancés l'année dernière sont incroyables également. Enfin bref, c'est des montants... De ces deux-là, les plus impressionnants sont quand même chez Nintendo, je trouve. On aura l'occasion d'en reparler peut-être la semaine prochaine quand on parlera un peu plus de bilan, éventuellement. Mais est-ce que je peux avoir une réaction de vous trois sur ces chiffres, Sony et Nintendo ? Rien de super surprenant, mais...
Ça me semble logique parce qu'ils ont plus de consoles portables aussi, il faut y penser. Donc la Wii était en concurrence entre guillemets avec la DS aussi, et là maintenant il y a juste la Switch. Donc
tout à fait, ouais. C'est un truc qu'on a tendance à oublier parfois, mais tu as tout à fait raison. Ça a forcément boosté les ventes de réunir tout ça dans une console. Ouais.
C'est très intéressant aussi chez Nintendo, c'est tu parlais des ventes de jeux, et j'ai vu l'excellent thread d'Oscar Lemaire du coup sur Twitter qui. Sur plein d'axes, du coup, parler des chiffres de vente, et notamment le fait qu'il y a eu 13 jeux millionnaires, du coup, sur 10 millionnaires, attends, je ne sais même plus, c'est 10 millionnaires, non, je crois.
C'est 10 millionnaires. 10 millions, 13 jeux qui ont dépassé les 10 millions.
10 millionnaires sur Switch, ce qui n'était jamais arrivé, ils n'avaient jamais passé les 6-7, je crois, dans les consoles précédentes, et évidemment, il n'y en avait aucun sur Wii U, et tu vois, du coup, que Mario Kart 8 Deluxe est en passe de devenir le deuxième meilleur jeu vendu, sachant que le premier, c'est Wii Sport, mais parce qu'il était vendu en bundle avec la console, avec la Wii à l'époque. La Switch est en train de péter tous les scores, et c'est vraiment le point très intéressant, c'est que la console se vend, mais les jeux aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas de la Wii, justement, à l'époque. Donc là, ça rend les choses hyper intéressantes, sachant qu'en plus, il y a des jeux comme Legend of Pokémon qui viennent de sortir, mais il y aura aussi Splatoon 3 qui va sortir, Breath of the Wild 2, évidemment, qui devrait aussi cartonner, vu le score incroyable qu'a fait Breath of the Wild 1, qui a dépassé les 20 millions, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça qui est bien, c'est que la console se vend, mais les jeux aussi, et ça indique quand même une bonne santé de la console, et je pense qu'elle va rester encore quelques temps. Enfin, c'est dans l'intérêt, en tout cas, de Nintendo, de chercher à faire fructifier tout ça.
Ah ben, ce qui est sûr, c'est que...
J'ai retrouvé le tweet.
Vas-y.
Pardon, juste pour ne pas te porter une précision à ce que dit Lou, j'ai retrouvé le tweet où il parle des 10 millions, des jeux qui ont dépassé 10 millions. Il y a quand même eu d'autres consoles où Nintendo, où il y a des jeux qui ont dépassé 10 millions, mais par exemple, la meilleure, la Nintendo DS a 10 jeux qui ont dépassé 10 millions, la Wii U en a 0, par exemple, et la 3DS en a 7, tu vois, on est quand même... La Switch est quand même nettement derrière, avec une durée de vie qui est... Enfin, alors que la Switch est encore loin d'avoir terminé son cycle de vie.
Et effectivement, ça, c'est un point qui est important à noter aussi. Elle est loin d'avoir terminé son cycle de vie. On est sur une situation où il n'est pas impossible que la Switch devienne la console la plus vendue au monde de l'histoire. La place est aujourd'hui occupée par, si je ne me trompe pas, la PlayStation 2.
C'est la PS2.
Qui avait vendu 150 millions d'unités, je crois, 151, quelque chose comme ça. Mais du coup, la Switch, alors, n'est plus tout à fait... On ne sait pas quand ils vont passer à une console suivante, mais on est plus ou moins au milieu du cycle de vie. Et du coup, oui, il reste encore en vendre encore 50 millions, c'est pas du tout impossible, surtout vu ce qui arrive dans les années à venir, quoi. Donc c'est vraiment le gros, gros résultat. Et puis un petit mot quand même pour noter que Konami va très bien aussi. On parle parfois de Konami en s'en moquant un peu au niveau du jeu vidéo. Ben, ils ont fait leur plus gros résultat de leur histoire, y compris dans le domaine du jeu vidéo. On ne parle pas que de pachinko et de fitness. C'est dû à des jeux comme Yu-Gi-Oh!, surtout Yu-Gi-Oh!. Il y a un truc qui s'appelle Professional Baseball Spirits 8. Il y a eFootball, vous savez, PES, eFootball qui s'est renommé, a eu quelques problèmes, mais il est présent aussi.
C'est vendu, ça ?
Et bah, c'est un jeu gratuit et qui a eu tellement de problèmes que je crois que même gratuit, les gens ne voulaient pas. Donc, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont bien. Et au niveau du jeu vidéo aussi. Et bon, peut-être qu'ils pourraient revendre leur licence de jeu vidéo. C'est un truc dont on parle depuis longtemps. Mais peut-être que ça sera une cible pour les prochains rachats. Peut-être, vous savez, on parle de Capcom, notamment, depuis des mois et des années, comme cible de rachat. Et la rumeur persistante veut qu'en fait, Microsoft voulait racheter Capcom en 2018, et que, en fait, le succès de Monster Hunter World a tout à coup fait en sorte que Capcom devienne trop cher à racheter, mais c'était en 2018-2019, et ça a vraiment sauvé la société d'un rachat potentiel, d'après ce qu'on entend. Mais aujourd'hui, vu le panorama et la frénésie des rachats et le début de consolidation qu'on a dans l'industrie, il n'est pas impossible que les gens se disent, bon, ok, ils voulaient, j'en sais rien, je lance un chiffre au hasard, ils voulaient 2 milliards à l'époque, ça commençait à devenir trop cher, aujourd'hui, ça nous en coûterait 4, mais on va le faire quand même, parce que sinon, quelqu'un d'autre va le faire avant nous, je ne sais pas du tout, 4 ou 10, ou, enfin, Capcom, c'est une grosse boîte, quoi. Mais donc, ce n'est pas fini, ça, c'est assez certain.
Et Konami, c'est l'un des seuls studios assez réputés à avoir réussi à tirer un gros bénéfice des NFT aussi, il faut le dire.
Ah, 140 000 euros! Incroyable! Ils sont vraiment, ça a changé.
Millions, millions.
Non, c'est 140 000 euros.
Mille ou millions, j'ai oublié.
140 000.
Mille, ok.
Non, ça, en fait, ça n'a pas vraiment marché, leur NFT. Sur leur chiffre d'affaires, c'est 1,6 milliard sur l'année 2021. Donc,
ça s'est vendu,
c'était un gros succès. Mais bon, on y reviendra au NFT, effectivement, mais c'est notable, c'est l'une des sociétés qui a tenté le coup. Clairement, alors peut-être qu'ensuite, avec les reventes, les machins comme ça, un jour, ça fera plus. Mais à ce stade, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça pèse dans la balance pour eux. Écoutez, on va parler dans un instant de Dying Light 2 et des autres jeux auxquels on a joué en ce moment. Je voudrais avant ça vous rappeler une chose essentielle, c'est que le rendez-vous jeu ne propose pas de NFT. Il ne propose pas de NFT, il vous propose un moyen beaucoup plus sain de soutenir les créateurs que vous appréciez, et ça, c'est de donner de l'argent au rendez-vous jeu. C'est une transaction absolument formidable. Vous donnez de l'argent pour soutenir l'émission, et en retour, vous n'avez aucune propriété, d'aucune licence, de quoi que ce soit. Vous avez juste le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez. Bon, j'exagère un tout petit peu, et la plaisanterie avec les NFT s'arrête là. Évidemment, vous avez des bonus sympas, comme par exemple les éditos que je fais régulièrement. Il y en a eu un cette semaine pour parler justement des NFT et de pourquoi concrètement les NFT seraient néfastes pour l'économie des jeux vidéo, parce que c'est bien beau de dire « Ah, les NFT, c'est pourri », et il y a une sorte de mouvance générale qui s'inscrit dans cette idée, sans vraiment comprendre pourquoi. Ben là, j'espère que vous comprendrez avec cet édito. Il y en a un la semaine prochaine pour faire un petit peu le bilan financier de mon activité. Je vous dévoile, bon, pas tous les chiffres, hein, mais les tendances. Donc ça va vous intéresser aussi, j'espère. Et puis, il y a les time codes, il y a des contenus bonus, il y a le plaisir surtout de savoir que vous aidez un créateur à créer un contenu que vous appréciez. Et donc, c'est une démarche active qui vous coûte pas grand-chose. Hein. Vous pouvez choisir le niveau de soutien, mais le premier, c'est à peine le prix d'un café. Donc, si vous rentrez chez vous dans quelques heures, là, vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et vous pensez « Ah, Patrick !» C'est le réflexe pavlovien que j'essaye de vous insérer dans le cerveau. Cling, Patrick. Et là, vous dites « Je vais aller voir sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir le rendez-vous jeu. » Peut-être. Regardez au moins. Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent l'émission.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de passer au jeu que nous avons testé ces derniers temps. Et on va commencer du coup avec... JK voulait absolument parler de Dying Light 2, mais Bugland est notre invité, hein, c'est la première fois qu'on le reçoit. On va peut-être laisser la primeur.
J'ai d'en parler avec quelqu'un, je vais pas parler tout seul, hein, au contraire.
Du coup, Bugland, Dying Light 2, c'est un jeu qui s'est fait attendre très longtemps. Dying Light était un assez gros succès pour un studio relativement modeste, hein, Techland, qui avait connu son premier jeu réussi avec Dead Island, dont je repense d'ailleurs au trailer à peu près je sais pas, une fois par semaine, le trailer de Dead Island, il me revient dans la tête. Dying Light, un jeu qui était très zombie, très parcours, et plutôt ambitieux, et pour ce studio, ils avaient réussi leur coup. Dying Light 2, très attendu, pas mal retardé. Là encore, assez ambitieux. Ils annonçaient des conséquences de nos choix absolument incroyables dans une ville énorme avec plusieurs factions. Toujours ce jeu avec les zombies. On peut se cacher. Il faut les éviter. Ils évitent la lumière, donc on est plus libre dans la journée. Et dans la nuit, tout le monde sort, mais on peut aller explorer des endroits où il n'y a pas de lumière. Mais il ne faut pas y rester trop longtemps parce que nous, on est aussi infectés par le virus zombie. Et si on reste loin de la lumière du soleil, ben au bout d'un moment, on risque de se transformer en zombie aussi. Enfin bref, il y a plein de systèmes, il y a plein d'ambitions. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu ? Est-ce que le pari est réussi ? Dis-nous tout.
Alors, je trouve que globalement, le pari est réussi sur l'ambiance, surtout que c'est un style de jeu, on va pas se mentir, qu'on n'a jamais, en fait, hein, des jeux parcours comme ça en FPS. Hormis Mirror's Edge, je n'ai pas trop d'autres références. Et ça marche extrêmement bien. Ils ont vraiment très bien travaillé l'univers et les accroches de gameplay. C'est ultra dynamique, ultra vivant. Et c'est un vrai plaisir de se balader dans la ville. Côté zombie, c'est comme le 1. En fait, on retrouve vraiment toutes les forces du 1 qui sont amplifiées dans celui-là. Donc, c'est vraiment une belle réussite de ce côté-là. Scénaristiquement, ça marche de ouf aussi. Belle histoire et surtout des quêtes secondaires intéressantes, c'est très important. Pour ce qui est des choix, c'est difficile de jauger sur une première game, je pense qu'il faut en faire une deuxième pour voir à quel point ça a eu des impacts, mais personnellement j'ai quand même eu la sensation que mes choix avaient fait changer des choses. Maintenant, encore une fois, c'est difficile de juger ça sur une seule game. Le côté zombie, toujours aussi intéressant, donc la nuit forcément... Il y a beaucoup plus d'infectés. Je dis zombies des fois, mais c'est infecté, on est d'accord. Il y a beaucoup plus d'infectés la nuit, donc il faut faire attention et se balader plutôt sur les toits. Mais à l'inverse, du coup, il y en a beaucoup moins dans les zones sombres. C'est ce qu'ils appellent. Ils appellent ça comme ça. Du coup, si on veut explorer des bâtiments, si on veut explorer des zones où il n'y a pas de lumière, basiquement, il vaut mieux y aller de nuit parce que les infectés sont à l'extérieur. Et l'inverse, c'est la journée, il y en a très peu dehors. Et du coup, à l'intérieur des bâtiments, il y en a énormément. Donc, ça permet de choisir aussi.
C'est pas, oui, effectivement, c'est pas que la nuit, c'est le bordel partout. Et donc, tu as qu'un seul type de gameplay qui est proposé. C'est que tu peux aussi aller dans des endroits où tu ne pouvais pas aller pendant la journée. Donc, c'est un autre... j'avais pas pensé à ça, mais c'est assez intéressant, effectivement.
Oui, ça donne une certaine logique, finalement, à l'univers, parce que on a cette décision à prendre. On peut se dire qu'aller dans les zones sombres de jour, il va y avoir beaucoup plus d'infectés, et donc ça peut être une raison aussi d'y aller pour prendre plus d'expérience, pour farmer un petit peu tout ce qu'il y a à farmer. Donc ça donne à réfléchir sur la situation, et ça permet aussi de changer... De faire évoluer notre manière de jouer, en fait, en fonction de nous, comment on se sent, comment on avance dans le jeu. On peut vraiment appréhender les choses différemment, d'autant plus qu'il y a une belle sensation d'évolution avec plein de nouvelles compétences. Globalement, c'est assez une réussite. Le plus gros point négatif, finalement, de ce jeu, jusqu'à maintenant, c'est la technique. Je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement buggé. Alors certes, ils ont annoncé un patch Day One, et je sais que beaucoup de gens comptent dessus. J'ai eu tellement de retours de commentaires dessus. Mais avec le recul, hein, moi j'en ai vu passer des patchs Day One, et j'ai jamais vu de très grande différence entre le jeu avant patch et le jeu après patch. Donc j'ai bien peur que ce soit un petit peu l'effet cyberpunk et qu'il faille pas mal de temps pour corriger l'ensemble des bugs du jeu.
Mais pour être très précis, les bugs, j'ai vu et lu plusieurs tests. Effectivement, beaucoup de gens se plaignent des bugs qui peuvent être parfois assez lourds. Ça a été jusqu'à des sauvegardes wipées, ce genre de choses. Mais quand même, ce que les gens disent, c'est que ça reste jouable. Si on n'aime pas du tout les bugs, il faut éviter, c'est clair. Mais par contre, ce n'est pas cassé au point que le jeu ne soit pas exploitable. Il reste jouable, n'est-ce pas ?
Et voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai fait le jeu sur Series S, et le jeu reste totalement jouable, mais il y a des ratés, genre les trucs frustrants, typiquement, c'est quand les quêtes plantent, par exemple. Voilà, moi, j'ai des quêtes que je ne peux plus faire, en fait. Et ça, c'est vraiment des trucs assez frustrants. Mais Cyberpunk fonctionnait bien aussi hein, sur New Gen et sur PC. C'était vraiment les versions Old Gen. Et j'ai pas pu tester sur PS4 et Xbox One, donc je sais pas à quel point c'est cassé ou plus ou moins en fait. Hein. Franchement, j'ai aucune idée de ça. Mais globalement, ouais, on peut faire le jeu, mais après ça reste frustrant quand il y a des animations de personnages qui se lancent pas, quand on rentre dans des cinématiques et qu'il y a un personnage qui est planté au milieu qu'on passe à travers parce que l'animation ne s'est pas déclenchée. La fin aussi, je la spoil pas bien entendu, mais les répercussions des choix à la fin, c'est tout un enchaînement de cinématiques. Et sur les 4 ou 5 que j'ai dû avoir, il y en a 2 qui ont planté. Donc, c'est frustrant, c'est frustrant.
Mmh, d'accord. J.K., tu as pris du plaisir sur le jeu. Il y a tous des éléments de gameplay, de parcours sur lesquels j'aimerais poser des questions. Mais d'une manière générale, tu as l'air d'avoir aimé.
Ouais, je suis emballé par le jeu. Je sais que c'est un jeu qui a une réception critique assez partagée. Il y a eu très bonne note chez nous, enfin chez jeuxvideo.com, on lui a mis 17.
87, t'as mis 17, ouais. Et voilà, Nodus chez GameCult a moins aimé, je crois.
Voilà. Et je sais qu'à 87, on y joue un peu en parallèle et on était vraiment hyper d'accord sur quasiment tous les points. En fait, c'est effectivement déjà avant tout ce qu'il faut retenir, c'est con à dire, mais c'est un jeu qui est extrêmement fun à jouer, quoi. Vraiment, ça. En fait, il y a plein d'éléments qu'on connaît par cœur déjà. Donc bon, le parcours est au moins aussi réussi, même plus. Je trouve que dans le 1, t'as aussi toute une couche RPG, mais dans le sens loot, équipement, déblocage de compétences et tout, qui est franchement addictive, où t'es toujours content de trouver une nouvelle arme, de la customiser, ce genre de truc, et du coup ça t'encourage vraiment à explorer. C'est-à-dire que le jeu te pousse constamment à l'exploration et à prendre des risques, même si le jeu est pas très difficile, je trouve, en tout cas en normal, mais ça t'encourage quand même souvent à prendre des risques, à aller toujours plus loin dans l'exploration. Et ils ont largement étoffé le gameplay de nuit par rapport au premier. Et effectivement, il y a un vrai intérêt à sortir à la nuit. C'est presque un rythme de jeu différent. En fait, la nuit, t'es beaucoup plus sous pression. Ne serait-ce que parce que t'as effectivement cette infection qui fait qu'il faut que tu te dépêches en fait et que tu trouves régulièrement des zones safe pour pouvoir diminuer ton infection.
J'ai entendu à ce propos une comparaison qui me paraissait assez intéressante. Les gens disaient c'est un petit peu comme un jeu, si t'es sous l'eau et que t'as un tank à oxygène, et du coup ça te met la pression sur où tu vas, qu'est-ce que tu fais, où tu es.
C'est un peu ça effectivement, parce qu'en fait dans le lore, en fait le prétexte c'est que les lampes à UV te protègent de l'infection. Donc les survivants dans l'univers ont construit plein de zones avec des lampes à UV dans la nuit, qui sont des sortes de phares en fait qui te permettent de te protéger. Donc régulièrement, et ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi, par exemple, la nuit, il y a ce qu'on appelle des hurleurs, et si jamais un hurleur te repère, il va se mettre à hurler, évidemment, et là, ça crée une horde qui va te poursuivre. Enfin bon, et ça donne des courses-poursuites hyper intenses, et là, pour te sauver, il faut que tu trouves une zone à UV pour pouvoir te protéger, etc. Donc régulièrement, en fait, ça modifie vraiment le rythme du jeu, c'est vraiment chouette. Et ce que j'ai bien aimé, au-delà de ça, donc qui était plutôt attendu, finalement, c'est Bugland l'a dit un petit peu, c'est que c'est plutôt bien écrit, même si la VF est le doublage en français est assez moyen, genre ça va de ok ça va à vraiment vraiment pourri, et ça c'est vraiment super dommage.
Gotoz et Aubin sur Twitter donner des exemples, je crois que c'était de ce jeu qui parlait, des exemples en fait de problèmes de traduction où le terme a été traduit. Il parlait notamment de tape qui était et qui a été traduit par... Enfin bon, bref, oui, c'est des problèmes de traduction classiques qui sont...
Honnêtement, je sais pas s'il parlait de ce jeu, parce que moi, j'ai pas trouvé une seule casse-tête dans le jeu.
Ah, d'accord, peut-être.
Me confirmer, mais je sais pas s'il parlait de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est un jeu qui est plutôt bien écrit, qui n'évite pas quelques petits clichés, des personnages hyper stéréotypés, etc. Mais il y a plein de quêtes secondaires qui sont en général scénarisées, qui sont un peu à tiroir, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et ils ont énormément de travail, je trouve, sur l'univers, sur le lore, pour rendre le tout vachement crédible. C'est bête à dire, mais moi, ça faisait longtemps, en fait, depuis Cyberpunk 2077, qui a ses défauts, mais qui a une réussite incroyable, c'est sa ville, en fait, où tu as envie d'y rester et tu crois à l'existence de Night City. Bah là, c'est pareil, en fait. Ils ont travaillé ce qu'on appelle la narration environnementale, quoi. Il y a des tonnes de détails partout qui te racontent des histoires. Les personnages ont tous des habits très différents. Par moment, tu vas avoir des groupes qui vont, t'as l'impression qu'ils sont sortis de Mad Max, d'autres qui sont habillés différemment. Enfin, tu sens qu'ils ont vraiment pensé quand même l'univers pour que ce soit cohérent. Et ça marche vraiment bien. Et donc voilà, ouais, non, c'est moi. Enfin, moi, je m'amuse énormément sur le jeu. Je trouve qu'il est hyper addictif. Il a effectivement des défauts techniques avant tout. Je voulais faire un petit mot sur la version PC justement, parce que moi, je l'ai fait sur PC. J'ai pas eu beaucoup de bugs très gênants. J'ai eu très peu de bugs bloquants. Par contre, le jeu est extrêmement gourmand sur PC. Il y a du ray tracing, donc qui est vraiment sympa, qui apporte beaucoup, mais qui te défonce les performances de manière assez virulente. Donc heureusement, il y a des techniques d'upscaling. Donc bon, je rentre pas dans le détail, mais il y a le DLSS par exemple chez Nvidia qui est ultra bien fait. Mais par contre, il faut quand même un gros PC. Et c'est vrai que ça manque un peu d'optimisation d'une manière générale. Mais non, sinon c'est une très bonne surprise. Franchement,
il y a moyen d'y jouer quand même sur un PC, on va dire, qui est pas une bête de compétition actuelle. On peut quand même réduire un petit peu tout pour que ce soit jouable. Ouais.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'options graphiques que tu peux régler. Il y a des techniques d'upscale, donc le DLSS, mais là, il faut avoir une carte graphique GeForce RTX. Et de l'autre côté, tu as FSR, donc, qui est l'équivalent chez AMD, mais qui est compatible avec toutes les cartes graphiques. Et FSR est aussi extrêmement efficace en termes de performance. Il va rendre le jeu un peu moins beau. Enfin, visuellement, tu sens quand même qu'il y a un petit downgrade graphique. Par contre, moi, pour le boulot, je l'ai testé sur des cartes, genre sur des 1660 ou des cartes plus anciennes, en full HD, il va bien tourner sans ray tracing, il va tourner très correctement.
Ok. Ça me donne bien envie. Voilà,
je confirme le coup des cassettes. C'est bien dans Dying Light 2.
Ah d'accord, ok.
les adhésifs. De mémoire adhésif, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Au lieu de cassettes, c'est adhésif, ouais, c'est, et il y en a quelques-uns. D'accord. Donc c'est bien dans Dying Light. Ça me donne bien envie. A priori, vous le vendez bien là. Du coup, je reviens vers Bugland pour. L'autre question, on n'a pas beaucoup parlé vraiment de gameplay. Enfin, JK l'a évoqué un petit peu, mais la promesse du gameplay d'un Dying Light et d'un Dying Light 2 en particulier, elle est vraiment séduisante parce que c'est à la fois le combat contre les zombies, beaucoup de mêlées, et puis le parcours en même temps, mais le parcours qui est intégré au combat contre les zombies. Genre, on peut sauter sur un mur, retomber sur un zombie, en balancer un sur un piège, comme on voit dans les trailers. Et ça a l'air super fun et mobile dans les trailers. Est-ce que c'est comme ça vraiment dans le jeu, ou ça, c'est quand tu fais le truc parfaitement et ça arrive une
fois tous les deux ans? Alors, voilà, c'est comme ça dans le jeu quand tu as une bonne expérience du jeu, en fait. C'est que les mécaniques sont assez dures à prendre en main au début. Le parcours, ça va, ça rentre assez vite, mais les mécaniques de combat, si on veut vraiment faire des trucs assez classe comme on voit dans les trailers, il faut se poser un bon moment et se dire « Ok, alors comment ça fonctionne ?» Parce que c'est très pointu, c'est des timings assez serrés, et ça s'affiche pas très grand sur l'image. Donc, il faut prendre le temps de bien comprendre les mécaniques pour les utiliser comme il faut. Mais ouais, tout est vrai. Une fois que tout est pris en main, on peut vraiment s'amuser et se régaler. Il faut bien sûr que le personnage soit un peu augmenté aussi, parce qu'il y a beaucoup de compétences. Mais ouais, ça fonctionne ultra bien. Et le personnage répond intuitivement, en fait. On arrive à le mettre bien comme il faut, là où on veut qu'il soit. Et c'est là que la performance, elle est surtout sur le parcours, la performance, en fait. Parce que les combats, ça reste très générique, finalement. Hein, c'est se protéger, taper. Mais ouais, au niveau du parcours, c'est incroyable. Des fois, sur plusieurs points d'accès, sur plusieurs points où j'essayais de me positionner, le personnage répondait parfaitement à l'endroit où je voulais qu'il aille. Et c'est dingue. C'est vraiment une réussite. Et c'est extraordinaire, parce que ça, on le voit jamais, en fait. Donc c'est quelque part, c'est hors norme sur ce point-là.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, ça peut être un peu une frustration au début, parce qu'effectivement, il faut quand même, notamment sur le parcours, il faut vraiment débloquer des compétences pour avoir un perso qui va vite, qui fait des glissades, etc. Donc au début, bon, tu traînes un peu, j'exagère, mais tu vois, c'est pas aussi grisant que ce que tu peux voir dans les trailers, etc. Il faut quand même passer un peu de temps pour accumuler l'XP et débloquer les bonnes compétences. Donc c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Et pour les combats, effectivement, même si tu peux débloquer beaucoup de choses, les combats corps à corps, finalement, ouais, ils sont peut-être un tout petit peu décevants. Ils sont assez grisants par les armes que tu vas récupérer et les accessoires, genre lancer des molotovs, lancer des petites fléchettes, etc. Mais ils sont assez basiques, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu des exemples de jeux au corps à corps, il n'y en a pas eu beaucoup, mais genre qu'on ait des jeux comme Condemned, etc., qui avaient des systèmes de corps à corps beaucoup plus évolués, je trouve. Et là, tu ne l'as pas forcément, quoi. Ça reste un peu très, comme tu dis, comme disait Bugland, c'est par étapes, quoi. Ouais, et esquiver, aussi esquiver, quoi. Voilà.
D'accord, bon, bah, ça a l'air quand même assez sympa, monde bien construit, quête secondaire. Ce qu'on dit aussi parfois dans les tests, c'est que le personnage principal et même la quête principale sont peut-être un peu ternes, mais par contre, tout le monde s'accorde à dire que tout ce qui est secondaire est très bien construit et bien écrit. Donc, bon, ça donne un petit peu envie. Tiens, dernière question pour conclure, il est dispo sur toutes les plateformes, enfin, sauf la Switch. C'est combien de temps de jeu
à peu près ? Sur Twitch aussi, par le cloud.
Ouais, mais il a été retardé. Je ne sais plus. Si je ne me trompe pas, hein, je dis peut-être une bêtise, c'est un autre jeu auquel je pense ? Ah, peut-être, je ne sais plus. Bon, regardez s'il est dispo en cloud sur Switch. Mais c'est combien de temps, pour finir la campagne ? Combien de temps de jeu à peu près, à votre avis ?
Franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai fait quasiment l'intégralité du jeu et j'ai à peu près 60 heures. Voilà. Je pense qu'il me faut 70 heures pour compléter toutes les quêtes secondaires qui me restent. Et ouais, il doit falloir bien 90-100 heures si tu veux compléter, chercher les collectibles et les trucs comme ça.
D'accord. Ok.
Ouais, c'est ça. C'est ce que, à moi, c'est pareil. J'ai pas encore fini le jeu, mais 87, on discutait. Lui, en gros, si tu fais la campagne en ligne droite, c'est assez court, c'est 20 heures. Mais si tu veux faire un 100%, tu peux largement faire les 100 heures de jeu, quoi.
D'accord. Donc, c'est pas 500 heures, comme il l'avait dit à un moment.
Non,
ça 500 possiblement, hein, vu qu'il y a énormément
si tu fais toutes
de
les collections,
choix différents.
Bien sûr.
Ouais, voilà. Je pense que si tu comptes tous les choix et que tu veux tout voir tous les choix...
Tu fais tous les zombies dans le jeu, tu vois, par exemple.
C'est ça, ils ont revendu le truc.
Mais concernant la version Switch, apparemment, elle devrait sortir à l'été, été prochain.
Ah, bah c'est bien ça, donc elle a bien été décalée, ouais. Très bien. Merci. En parlant de Switch, merci à tous les deux. En parlant de Switch, on se retourne vers l'un des plus grands fans de la licence Pokémon au monde. J'ose bien le dire. Du coup, Lou, toi, tu as dévoré Pokémon Legends Arceus. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. On en parlait avec Maxime Claudel, qui lui trouvait... Alors lui, il avait beaucoup aimé le tout premier Pokémon et il était revenu à la licence avec Arceus et ça fait quoi, 25 ans après, il avait été un petit peu... Alors, il avait apprécié le jeu, mais il avait trouvé que ça n'avait pas énormément évolué et que la promesse de changement de perspective avec un monde vraiment en 3D était... c'est pas un mauvais jeu, mais il était un petit peu déçu. Il disait, à mon avis, ça va plutôt beaucoup plaire aux grands fans du jeu qui font toutes les versions et qui découvrent toutes les subtilités. J'ai l'impression que toi, tu rentres un peu dans cette catégorie et que tu prends ton pied sur Pokémon Legend. Alors, je ne sais pas si on dit Arceus ou Arceus, ça a l'air de changer.
Oula, n'ose pas lancer ce débat-là. Moi, alors, à titre perso, je dis Arceus. Je me base sur la prononciation japonaise. Ouais. C'est un mot japonais, donc voilà.
Il semble que certains officiels de Nintendo aient dit oui, ça se dit Arceus au Japon, mais aux États-Unis, ça se dit Arceus. Et donc en Europe,
j'ai regardé tout un tas de vidéos et apparemment, en français, ça se dit bien Arceus.
Ouais. D'accord. Bon, écoute, on va laisser les gens faire ce qu'ils veulent. On est extrêmement ouverts
oui,
dans
c'est
cette
ça,
émission.
C'est pas très important.
Mais donc, ouais. Plus sérieusement, Lou, toi, qu'est-ce que tu penses du jeu ?
Alors, je rejoins un peu ce que dit Maxime. Après, je trouve quand même que le jeu change le paradigme de Pokémon de base. Le fait d'avoir un monde alors semi-ouvert, ce qui va être un des premiers reproches que je ferai au jeu, au-delà de sa technique, tout le monde reparle, et dans mon test, j'ai eu droit, oui, la réalisation, on s'en fout, sauf que c'est pas du tout le point principal de mon test. C'est, selon moi, pas le défaut principal du jeu. Oui. Enfin, bref. Quand même, ça change par rapport à d'habitude. Le rythme des combats est beaucoup plus offensif. Hein. Le jeu est vraiment tourné vers les capacités qui frappent. Là, beaucoup moins de stratégies classiques, de mise en place, etc. Là, on a vraiment envie de castagner. Le recalcul des statistiques, d'ailleurs, va dans ce sens. Et le fait de pouvoir capturer en temps réel, d'observer, de jouer de l'infiltration, hein, faut utiliser le mot. Tu ne dois pas te faire repérer pour pouvoir essayer d'attraper les Pokémon de manière la plus furtive possible. Je trouve que c'est l'expérience que tout fan de Pokémon attendait depuis le début de la série, en fait.
Ah oui, carrément.
Beaucoup plus immersive. Ah oui, parce que le principe d'origine, c'est tu vas capturer, donc du coup, enfin tu vas capturer. Tu vas essayer de remplir du coup ton bestiaire et essayer d'attraper tous les Pokémon qui existent. Mais t'as ce côté très artificiel du « je rentre sur des cases où des animaux pop », combat aléatoire qui se déclenche, etc. Là, c'est quand même beaucoup plus organique, où tu explores du coup un monde et tu vois des créatures qui y vivent. Et finalement, tu fais un véritable safari, quoi. Et ça, je trouve que ça le retranscrit très très bien. Dès les premières minutes du jeu, t'es complètement embarqué. Le problème, je dirais, c'est que le jeu n'a pas de second souffle. Et moi surtout c'est complètement retombé au moment où tu débloques la dernière monture, donc c'est quand même relativement tard dans le jeu, on va dire une douzaine d'heures si tu vas très vite, plutôt une quinzaine si tu fais un petit peu de quête secondaire à côté en plus. Et à ce moment là où tu as toutes les possibilités d'explorer l'univers, tu peux escalader, tu peux naviguer, tu peux chevaucher du coup un cerf pour aller beaucoup plus vite, et tu peux voler, à ce moment là tu te dis ok, je peux tout faire, et finalement tout ça pour ça. Et en fait les ficelles artificielles finalement du jeu, de l'immersion, sont complètement cassées, et tu vois à quel point c'est une carte très sommaire, au level design vraiment mal travaillé pour l'ensemble des zones, et avec simplement des points d'apparition des Pokémon qui varient certes en fonction de la météo, en fonction du cycle jour-nuit, mais ça manque de fluidité et de finesse, en fait. C'est un côté gros sabot qui fait que ça te sort un petit peu de l'immersion du jeu. Et c'est quand même le truc le plus dommage.
Est-ce que tu dirais que c'est plus... Moi, je ne connais pas du tout la licence. Hein. Je vais être très honnête, je l'ai raté. J'étais dans cette génération de gens qui... quand elle est arrivée, j'étais suffisamment vieux pour me dire « Ah, c'est pour les enfants, donc je ne suis pas rentré dedans ». Mais est-ce que c'est différent de la progression des jeux classiques en 2D, enfin en tradition 2D ? Ça ne se termine pas de la même manière, ou est-ce que c'est un petit peu comme ça généralement aussi dans la licence ?
Alors c'est complètement différent. Juste avant, je veux revenir dans le chat, parce que dans le chat ça dit qu'au Japon on dit Arceus. Alors non, je confirme, au Japon
non,
on dit bien Aruseusu. Il n'y a pas de problème, allez voir les publicités là-dessus.
Non mais ils confirment. Ils ont mis les katakana, tout ça.
Non, quelqu'un a dit que c'était Arque, tu vois. Donc,
ils sont trompés. Ouais. Dans la lecture.
Non, c'est juste que je les commentaire tous les jours sous ma chaîne YouTube. Ah, comment tu prononces Arceus ?
On pensait que le débat c'était est-ce que le jeu est beau ou pas, mais non. C'est comment
dès la prononciation. Alors, concernant la progression dans le jeu, elle est quand même très différente. La construction habituelle d'un jeu Pokémon, là, il faut dire, c'est pas un jeu Pokémon classique, c'est Légende Pokémon. Hein. C'est donc potentiellement, à mon avis, c'est ce qui va arriver,
une nouvelle
sous-licence, voilà, qui va très bien s'intégrer avec la licence canonique, ce qui a été fait précédemment uniquement avec Let's Go, finalement. Avec l'incorporation du coup de nouvelles créatures, etc. Donc ça va être très intéressant pour les gens qui veulent une expérience globale. Un Pokémon aujourd'hui, c'est vraiment une expérience globale. On peut le voir comme un jeu service.
Jeu service, et c'est un style de vie finalement, Pokémon. C'est un mode de vie. On est d'accord.
Ah mais moi j'y pense quotidiennement, plusieurs fois par jour, pendant des heures. Non mais c'est vrai, je rigole même pas en disant ça. C'est un jeu qui occupe vraiment mon esprit de manière très, très récurrente, parce que je vis dans Pokémon, je crois, la plupart du temps. Donc du coup, la progression, c'est d'habitude tu récoltes 8 badges et tu vas affronter les plus grands dresseurs de la région. C'est comme ça quasiment tout le temps, peu ou prou. Et les seules fois ils ont voulu déroger à la règle, c'est pour faire quelque chose qui en fait ressemblait exactement à ça. Là, c'est très différent. Puisque le lien entre les humains et les Pokémon n'est pas encore créé finalement, et tu arrives au moment où ce lien est en train de se créer dans une région ancienne qui a déjà été explorée du coup dans les versions Diamant et Perle, dont le remake est sorti il y a 2 mois, et tu explores du coup cette région dans le passé, et tu arrives au moment où le dressage finalement des Pokémon, où on comprend l'intérêt des Pokémon pour des tâches de la vie de tous les jours. Et voilà, cette entraîne entre humains et Pokémon va naître, et tu arrives à ce moment-là. Et du coup, l'objectif, ça va plutôt être de calmer des boss Pokémon très puissants qui sont énervés pour une raison à peu près inconnue au début du jeu. Ils sont surpuissants, ils sont agacés, tu dois les calmer en fait finalement. Et tu vas explorer chaque zone pour calmer des boss tout en explorant chaque région et compléter le fameux Pokédex, puisque tu crées le premier
le
Pokédex
tout premier.
Papier.
Oh là exactement, là, quelle émotion.
Petite réécriture, petit retcon dans la licence, parce qu'à l'origine, le créateur du Pokédex, c'est Shen. Mais j'imagine qu'en fait, Shen est devenu le créateur du Pokédex numérique. Et du coup, là, on invente le Pokédex papier.
C'était évidemment. Startup Nation Pokémon, le premier Pokédex ordinateur, tout à fait, à l'époque.
Ouais, j'ai une question, moi, du coup.
Vas-y.
Tu es un grand fan de Pokémon, hein, si j'ai bien compris.
C'est ça, oui.
Est-ce que tu es satisfait de ce jeu?
Alors, en tant que fan, je suis plutôt satisfait du jeu. J'ai passé un très très bon moment, ce qui m'a pas obligé de lui mettre 6 sur Gamekult. Parce que le 6 sur Gamekult, historiquement, quand il y avait encore le barème qui était affiché sur le site, c'est le jeu qu'on conseille pour les fans du genre ou les fans de la licence. C'est le jeu sympa. Pour moi, c'est un jeu sympa. On peut passer de très bons moments. Hein. C'est plus que la moyenne, donc c'est pas un mauvais jeu. C'est un bon jeu plutôt. En revanche, c'est clair que au-delà, il aura du mal à convaincre. C'est pas comme un Breath of the Wild. Le rapprochement entre les gens de Pokémon et Breath of the Wild est souvent fait parce qu'il y a des évidences de rencontres entre les deux. Il y a une volonté de les gens de Pokémon d'un petit peu s'inspirer de Breath of the Wild, plus ou moins bien. Là où ça marche pas, c'est effectivement, comme je le disais, le level design, le fait que le monde ouvert soit morcelé. Et ce manque en fait d'immersion. L'immersion fonctionne très bien au début, et puis tu vois vite les limites en fait. Les trois premières zones, t'es dedans vraiment, et puis la quatrième, ça commence à être un peu redondant, et puis la cinquième. Et après, tout le post-game, c'est intéressant pour les connaisseurs du jeu, parce que ça va approfondir un petit peu les mythes de Pokémon de cette région, mais ça va pas te transcender en fait. Donc c'est pas l'expérience qu'ils avaient vendue en fait. Et en même temps, elle est très cohérente par rapport au premier trailer qui faisait vraiment peur d'un point de vue technique il y a un an, je crois, maintenant.
Ouais.
Où tu avais des Pokémon qui étaient animés à 3 images secondes, ce qui était quand même assez aberrant. Ces Pokémon existent toujours à 3 images secondes. Quand tu as un Pokémon qui pop au lointain, effectivement, il va avoir une animation très, très sommaire. Idem pour les PNJ, d'ailleurs. Et tu as du clipping vraiment très, très marqué par endroit. Dès que tu as une profondeur de champ un peu trop prononcée.
Quand on a quand on peut voler, là, ça devient le clipping. Il y a tout qui disparaît, il y a tout qui apparaît. C'est
ça. Les arbres qui apparaissent partout. Enfin, c'est assez étrange. Et puis le plus gênant, ça reste toutes les montagnes, tout le relief qui se modèle sous tes yeux. Enfin, t'as l'impression d'être dans une simulation de réalité virtuelle. Enfin,
personnellement, c'est triste parce que c'est le jeu Pokémon que tout le monde voulait. C'est genre, et les mécaniques, elles fonctionnent trop bien parce que c'est genre ça, en fait, qu'il fallait faire. Ça fait des années que les fans le demandent, donc ils n'ont rien inventé. C'est une demande des fans, limite. Tout avait été écrit par les fans et ils ont construit ça de la manière la plus feignante possible. et moi, c'est une déception ultime.
Ah, c'est vrai.
Complètement, parce que pour moi, c'est genre le pire truc qu'on pouvait sortir en suivant la direction que les fans voulaient du jeu, en fait. Voilà, il y a rien, il n'y a pas de vision, ni artistiquement, ni techniquement, il y a rien, ce jeu n'apporte rien. Pour moi, c'est l'un des pires jeux qu'on pouvait faire en répondant à la demande des fans.
Voilà, tu veux dire qu'ils ont été paresseux dans l'implémentation, ils ont juste fait un monde en 3D, ils n'ont pas inventé grand-chose.
Mais c'est ça, c'est Pokémon quand même, c'est genre la licence l'une des licences qui rapporte le plus de fric au monde.
Mais oui, c'est ça la clé. Je crois qu'on en discutait un petit peu avec Maxime la semaine dernière, et j'ai l'impression, ce que dit Lou aussi, ils n'ont pas besoin de faire quelque chose de différent, parce que les fans, enfin, je ne sais pas, on a eu les premiers chiffres de vente de Arceus, peut-être que je me trompe, mais enfin, il se vend. Oui, on est d'accord.
Il se vend très bien. Il a fait un des meilleurs démarrages.
C'est ça. Les Pokémon se vendent.
Est-ce que le fait de vendre justifie la flemme? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas envie de faire vraiment quelque chose de bien?
C'est pas une question de besoin, je pense. C'est plutôt une question de contrainte. Il y a deux contraintes qui entrent en conflit pour ce jeu. C'est d'une part, Game Freak, ça reste une petite équipe. Ils sont un peu plus de 160 seulement, ce qui est assez minime. Alors, ils sont aidés par d'autres studios, évidemment, pour les modélisations, tout ça. Et il y a eu pas mal d'aide pour Arceus. Le débat sur la prononciation est encore très vif dans le chat. Donc, il y a cette première contrainte qui est celle du nombre, évidemment. Et l'autre contrainte, c'est simplement qu'ils ont un calendrier extrêmement précis et auquel il est impossible de déroger, parce que Pokémon, ce n'est pas qu'un jeu vidéo. C'est aussi toute une galaxie de produits dérivés tout autour, la série animée, les produits dérivés, les cartes. et tout doit sortir en même temps d'un point de vue marketing, c'est une obligation, donc il était impossible de repousser enfin n'importe quel jeu Pokémon. Pokémon n'est jamais repoussé actuellement parce qu'il rentre en fait dans un calendrier extrêmement précis de sortie et il pouvait pas faire mieux. Donc le jeu a une durée de développement de 2 ans environ, alors qu'un jeu comme Breath of the Wild, si je me souviens bien, c'était plutôt de l'ordre de 5 ans, donc avec une équipe beaucoup plus conséquente, donc c'est normal que les résultats soient très différents. Et je pense que c'est ça en fait le caillou dans la chaussure de Game Freak, c'est la Pokémon Company et les impératifs marketing.
Ouais, mais je suis assez d'accord avec. Je suis d'accord avec l'analyse rationnelle qu'on peut faire du jeu. Et en même temps, dans le cœur, je suis assez d'accord avec Bugland parce que moi, n'étant pas fan de la série, je me disais peut-être que ça va être l'occasion justement de rafraîchir la formule et de pouvoir inviter des gens qui ne la connaissent pas. Et là, le consensus avec lequel tu sembles être d'accord, Lou, c'est que non, c'est encore un truc très proche qui va beaucoup plaire aux fans, mais entre guillemets que aux fans. Et la plaisanterie qu'on disait à la fin de notre discussion
Maxime,
merci, j'ai mon cerveau qui a bugué, c'est que les pauvres chez Pokémon Company et Game Freak, ils vont devoir se contenter des dizaines de millions de fans qui vont acheter leur jeu, et donc c'est logique, tout va très bien pour eux, mais pour ceux qui sont pas déjà dans le trip, dans le fun, c'est peut-être pas l'épisode vers lequel se tourner. Donc,
c'est ça. Pour conclure vite fait, je comprends ce que dit Bugland et j'entends ce qu'il dit sur la direction artistique notamment, qui rattrape pas le point de vue technique et c'est vraiment dommage. Après, je pense pas que ce soit un mauvais jeu pour autant. Je trouve qu'il y a quand même un certain intérêt en tout cas dans l'approche, dans ce qu'il propose et dans le système de combat aussi, qui est assez différent dans l'immersion, malgré les limites. Je trouve que, et c'est un peu le cas aussi qu'on a vu avec Épée Bouclier, c'est un problème de potentiel. C'est-à-dire que le jeu tel qu'il est, c'est un excellent potentiel pour une suite qui sera un peu plus profonde, qui sera un peu meilleure. Il faut le temps qu'ils se rodent sur le genre, parce qu'aussi ils ont un petit peu de mal sur la 3D. Ça fait pas longtemps qu'ils codent sur console de salon aussi, on peut le dire pour la Switch malgré tout. Et pour le coup, si on veut une expérience différente de Pokémon avec une immersion et un intérêt beaucoup plus marqué, je pense à New Pokémon Snap qui est sorti il y a un an, qui est peut-être pas assez passé dans les radars, mais qui propose une expérience vraiment assez, assez forte en termes de safari, en termes d'observation, en termes de crédibilité de tout le bestiaire Pokémon. Celui-ci concentre vraiment plus, vise vraiment plus les fans effectivement de la licence, qui pardonneront plus facilement les limites.
Très bien, écoute, merci beaucoup pour ton avis, merci pour votre avis à tous les deux. Moi, j'ai juste quelques petits mots à dire sur mes activités vidéoludiques de cette dernière semaine. Avec l'annonce du rachat de Bungie, j'ai re-zioté un petit peu Destiny 2, et ils ont sorti un trailer pour The Witch Queen qui m'a donné envie de le relancer. Du coup, je l'ai relancé, et en parallèle de ça, j'ai aussi mardi, on a fait un raid chez... mais qu'est-ce que j'ai avec les noms aujourd'hui ? Putain.
C'est
bref.
Difficile, hein.
Mais ouais, c'est pas facile. Du coup, j'ai un petit peu vu... chez Zaroïd, merci. Mais je suis... Enfin bref, chez Zaroïd, on a fait un raid chez Zaroïd qui jouait à Overwatch. Et du coup, j'ai relancé Overwatch aussi. Je ne l'avais pas lancé depuis, 6 mois, depuis les scandales de Activision Blizzard. Là, je me suis dit, c'est bon, ils sont rachetés par Microsoft. C'est Phil Spencer, le nouveau Papa Jeff, donc tout va bien. Et donc, j'ai réussi à relancer Overwatch. Et c'est marrant le parallèle entre les deux, parce que autant Destiny... J'ai beaucoup joué à Destiny. Je suis revenu, j'ai rien compris. Mais rien. Alors, on est avec Zur, l'agent des neufs, qui est en train de faire une sorte de show télévisé dans lequel on participe avec un cheval cosmique. Enfin, c'est pour les 30 ans de Bungie, c'est n'importe quoi. Et c'est très, très fun, toujours. Meilleur gameplay de tous les jeux du monde, TM, c'est totalement prouvé. Mais... il faut vraiment, si on se relance dans Destiny après quelques mois, il faut genre 2 heures de jeu pour même comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être pas mal qu'il y ait un... En fait, j'attends maintenant The Witch Queen, la nouvelle extension, pour que ça fasse un petit reset pour que je puisse me relancer dans le jeu sans avoir la prise de tête de 2 heures à comprendre ce qui se passe. Et en parallèle de ça, Overwatch, c'est mais rien n'a changé. Mais alors, rien, à un point qui en est... Alors, je me suis bien amusé, j'ai fait 4-5 parties, c'était très drôle, mais c'est exactement le jeu tel qu'il était il y a un an, quoi. C'est complètement fou. Et c'est, j'ai trouvé ça assez drôle, mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur les deux, c'était très fun, mais le parallèle était assez frappant. Bon, bah écoutez, voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On a quelques petites news à couvrir également pour terminer l'émission. D'abord, il y a eu un State of Play sur Gran Turismo 7 qui a duré une demi-heure, quelque chose comme ça. Est-ce que j'oserais dire qu'on m'aurait dit que c'était un jeu PS4 ? J'aurais dit, ah bah ouais, il est c'est un jeu de milieu de génération, quoi. Il est pas moche, mais il est pas non plus. Franchement, pour un jeu PS5, je comprends pas ce qu'ils font, quoi. Les voitures sont belles.
Le truc, c'est qu'on disait déjà ça de l'épisode PS4. On disait oui, c'est un jeu PS3, quoi. Enfin, en fait, en vrai, non mais je crois, franchement, sans, ouais. je troll un peu, mais pas tant que ça. C'est que visuellement. C'est plus la claque que ça a pu être à l'époque, à l'époque PlayStation 1, PlayStation 2, parce qu'entre temps, il y a eu Forza, il y a eu Forza Horizon, il y a eu la concurrence qui a quand même bien élevé le niveau, au niveau purement technique. Hein. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu, donc je jugerai pas de la qualité de la simu, mais c'est vrai que visuellement, c'est plus la claque qu'on attend, quoi.
Bah surtout, un mois et demi après la sortie de Forza Horizon 5, tu vois les deux, c'est... Alors les voitures elles-mêmes sont très bien, mais dans l'ensemble... Enfin bon, bref, ça se trouve, le jeu sera super, je suis sûr qu'il va beaucoup plaire aux fans. Il arrive quand ? En mars. L'intérieur de la modélisation des voitures, des volants, des machins, c'est complètement fou, les jantes, enfin, c'est du car porn à fond. Mais quand tu vois le jeu, quand t'es en train d'y jouer, enfin bon, après, c'est pas la beauté qui fait tout le jeu, mais bref.
Ça me fait super bizarre.
C'est une simulation de mobile un peu quand même.
Oui, bien sûr. Pardon.
Ça me fait super bizarre d'entendre dire ça parce que quand moi j'ai vu les trailers, je joue beaucoup à la Switch, hein, ça explique peut-être cela. J'ai trouvé le jeu incroyable, mais vraiment, genre graphiquement, j'ai dit waouh, on en est là graphiquement. Et du coup, vous entendre dire ah, c'est pas foufou, c'est vrai.
Mais ça dépend de ce que tu regardes.
Ça grave.
Ça dépend de ce que tu regardes. Si tu regardes uniquement les bagnoles, elles sont folles. Mais vraiment, c'est genre la modélisation, machin.
Les bagnoles, ouais, sont sublimes.
Ouais, très très belles. Mais si tu regardes le jeu, je trouve, moi, dans son ensemble, genre quand tu vois la course, quoi, avec une caméra un petit peu plus reculée, tout ce qui est environnement, moi, je trouve ça assez plat.
C'est ça le problème. Je pense qu'on est en vue caméra, mais en fait, dans le jeu, ça va être magnifique parce que tout ça, tu le vois passer à une vitesse en temps normal. Ouais. Du coup, tu n'as pas le temps de t'arrêter sur les détails.
C'est possible.
Et je pense que c'est la vue caméra qui fait défaut.
Peut-être, moi, je trouve vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'il faudrait que vous jouiez un petit peu à Légende Pokémon et que vous repassiez après sur GT7.
Très bien. On sait l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Donc, il y a eu ce petit reveal. C'était tout hier, cette nuit. Si vous voulez un petit peu plus de Gran Turismo 7, vous pouvez aller passer une demi-heure à écouter Yamauchi parler. Ghostwire Tokyo a une date de sortie le 25 mars. Il n'y avait pas assez de jeux pour le... qui va de janvier à mars, évidemment. Donc, Ghostwire Tokyo arrive le 25 mars. Et il y a un trailer de gameplay qui va être révélé cette nuit. Donc, vous verrez enfin de quoi il en retourne pour ce jeu. Shovel Knight... les développeurs de Shovel Knight ont annoncé un nouveau jeu qui est une sorte de Zelda... en graphisme, c'est graphisme pixel art.
C'est Link's Awakening. On dirait vraiment Link's Awakening sur Game Boy
Color.
Version Color. Il est assez incroyable. Incroyable. Magnifique.
Moi, Patrick, je précise que j'ai ouvert le conducteur hier soir et j'avais pas suivi l'annonce. J'ai cliqué sur le trailer que tu mettais dans le truc et j'ai backé le jeu 10 minutes après.
Ah ouais.
j'adore Shovel Knight. C'est un jeu que j'adore vraiment et je me dis bon voilà, c'est leur nouveau jeu. Ça a une gueule incroyable. Ça s'inspire des vieux Zelda. Allez, c'est bon quoi. J'y vais quoi. Enfin, ouais. C'est obligatoire.
Mais du coup, je me pose la question, tu vois, nous, on est vieux, bon, on n'est peut-être pas si vieux que ça, mais on a connu, du coup, cette époque-là, et ce jeu nous parle aussi, parce que graphiquement, ça renvoie à une époque. Mais je me demande, pour un jeune joueur, comment il reçoit ces graphismes-là, et comment ça lui paraît. Et c'est vrai que ça me rend assez curieux d'avoir les impressions, du coup.
Bah, je pense que c'est mort, parce que même moi qui ai connu ces jeux-là, aujourd'hui, voir des graphismes comme ça me fait trop mal, et je pourrais pas...
Ouais, mais moi aussi, ah, merci Ah là là, merci Bugland, moi aussi, je me sentais tout seul, je me disais... Bah, je trouve ça un peu moche quand même. Enfin, moche. Ah, c'est un style particulier, mais c'est
ça me parle pas. Facile, mais moi je peux plus.
Ouais, ça me parle pas.
J'ai envie de nuancer. Je pense que c'est pas tant une question de graphisme que d'animation, que de lourdeur de gameplay et tout ça. Évidemment qu'on rejouait à un Link's Awakening et à Game Boy comme à l'époque sans.
Ah non, mais même graphisme. Hein.
Mais ouais, mais franchement, Shovel Knight, par exemple, en termes de prise en main, c'est hyper nerveux. Là, ça a l'air beaucoup plus nerveux qu'un vieux Zelda, tu vois.
C'est sûr.
En fait, ce que j'aime bien avec cette démarche néo-rétro, ce que fait très bien Yacht Club. Yep, c'est ça. C'est qu'ils arrivent à insuffler quand même de la modernité. Ok, ça a une gueule de jeu d'il y a 30 ans, mais quand tu le prends en main, il y a quand même un truc, tu dis, ok, ils ont compris ce qu'il fallait pas refaire exactement comme à l'époque, quoi.
Ouais. Et voilà. Évidemment que le gameplay, c'est une autre question, mais je crois que, on est tous les deux d'accord avec Buckland. Le graphisme, nous, ça
moi,
c'est un petit peu rédhibitant.
Enfin voilà, le gameplay a beau être le meilleur gameplay du monde, je peux pas.
Ça me refoule. Bah, juste en jugeant les graphismes, je sais pas si le jeu pourra être tellement bien que pour moi, je passerai outre l'impression que j'ai des graphismes. Autant le pixel art 16-bit, je trouve ça charmant, autant le 8-bit et encore plus Game Boy Color où t'as pas assez de couleurs pour en faire des vrais. Enfin bon. Mais ceci dit, je suis très content, comme toujours, que vous, ça vous plaise. Hein, donc, Alex.
Oui, heureusement qu'il y a encore.
Exactement.
Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit.
Mais Alex, du coup, t'es allé le backer aussi, toi ?
Non, je back rarement des jeux. Ah. J'ai backé une seule fois un jeu, j'étais déçu. Du coup, j'ai arrêté.
D'accord. Très bien. Donc, en tout cas, on n'a même pas dit le nom du jeu. C'est Mina the Hollower de Yacht Club Games, qui est une sorte de Zelda, inspiration Game Boy Color style. Quoi d'autre ? Ah oui, si vous aimez ce genre de graphisme, Bloodborne Demake, le Demake PS1 de Bloodborne est disponible. Alors c'est un truc qui est disponible gratuitement sur PC. C'est Bloodborne PSX qui est une partie, je crois que c'est la première zone et un petit peu plus de Bloodborne refait en style PS1. Il y avait eu un truc comme ça pour The Last of Us aussi. Enfin, il y a des Demakes comme ça qui sont faits de temps en temps. Il est disponible si vous souhaitez jouer à Bloodborne en version graphisme 3D tout pourri, vous pouvez. Voilà, c'est aussi dans le style Demake. Je sais pas si ça vous parle aussi.
Ça, par contre, c'est... ça, par contre, c'est ultra moche.
Ça, j'y jouerai pas, par exemple.
Le respect se trouve là où on a notre nostalgie. Je pense que c'est ce que ça veut dire.
Ouais, c'est la 3D, c'est le problème de la 3D. La 3D de l'époque PlayStation.
Je voudrais savoir une personne qui trouve la 3D de la première PlayStation encore belle. Quoi. Je pense que c'est les premiers jeux en 3D, enfin, pas que PlayStation, les premiers jeux Nintendo.
Oui, bien sûr.
Ça.
On est d'accord. Cleric Beast avec 3 polygones, c'est possible à faire, ils l'ont fait, c'est pas très beau et c'est une bouillie de pixels, mais ça existe. C'est un projet de fan, évidemment, hein. C'est un truc gratuit qui est sympathique. Quelques petites annonces, il n'y avait pas assez de jeux encore pour... Et il y a une extension de Risk of Rain 2 qui arrive le 1er mars. Il y a Puzzle Quest 3. Je vous vois rire avec Puzzle Quest, machin, mais oui, voilà.
Ah exactement. Non, moi je ris pas, j'adore.
Et ben voilà, il y a des gens à qui ça parle qui arrivent également le 1er mars en free-to-play. À côté de ça, on a King of Fighters 15 qui n'est pas encore sorti, mais qui annonce déjà ses personnages en DLC. Il y aura 4 équipes de 3 personnages qui arriveront au cours des 2 prochaines années, je crois. Et on a un changement dans World of Warcraft, la possibilité de créer des groupes et des raids avec des gens de la faction ennemie. World of Warcraft perd son identité, se déplume. Bon, bref, je ne vais pas vous faire tout le... c'est quand même, en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont lancés sur des serveurs différents et qui étaient dans l'autre faction, Horde ou Alliance, il y a des années, et qui aujourd'hui soit sont amis depuis longtemps, soit deviennent amis et se rencontrent tout à coup, et ils ne peuvent pas jouer ensemble parce qu'il y en a un qui est Horde et un qui est Alliance. Donc, je pense que oui. Pour être honnête, j'ai vu personne s'en plaindre sérieusement. C'est évidemment, il faut twister un petit peu le lore du jeu pour le faire. Encore que hein, les guerres des nations n'impliquent pas forcément tous les individus. Mais c'est un changement assez important pour le jeu quand même. Quoi d'autre ? On devrait avoir des nouvelles de Final Fantasy VII Remake Part 2 et d'autres spin-off de Final Fantasy VII cette année. Ça continue comme ça. Warner Brothers a répété que Hogwarts Legacy et Gotham Knights arriveraient bien cette année. Et quelques jours après, on entend des rumeurs peut-être envoyées par Warner Brothers directement que Suicide Squad serait décalé à 2023. C'est pas impossible. On se demandait où était Gotham Knights qui était censé sortir cette année, la même année que Suicide Squad. On l'a pas vu du tout, Gotham Knights. C'est un petit peu le prochain Arkham. Peut-être qu'il va être décalé genre à l'automne parce que ils ont la place maintenant qu'ils ont décidé de décaler Suicide Squad. On verra. Quoi d'autre ? Dernière petite chose, Call of Duty Modern Warfare 2 serait en développement chez 11 studios différents. C'est le Call of Duty de cette année.
C'est n'importe quoi.
Ça devient... impressionnant.
Après, pour le coup, je pense qu'il y a une énorme pression sur celui-là parce que ce sera très vraisemblablement Modern Warfare 2 et c'est la suite donc, d'un Modern Warfare qui avait surcartonné et en plus qui fait suite à Vanguard et Cold War qui avait été reçu de manière assez tiède. Ouais, donc je pense que celui-là, ils ont un peu la pression. Donc, je peux comprendre qu'ils mettent le paquet pour que ce soit réussi. Quoi.
Est-ce Après... que ça comprend aussi Warzone 2, Modern Warfare 2 du coup?
Alors,
il y aura forcément du nouveau pour Warzone.
Bah oui, c'est ça. Généralement. Mais c'est encore plus que juste du nouveau, c'est une nouvelle version.
Voilà, c'est une nouvelle version. En studio, ça se justifie un peu s'il y a deux jeux en même temps. Quoi.
Possible. Peut-être qu'ils développent les deux en même temps. C'est tout à fait possible. Mais le chiffre 11 studios est impressionnant. Mais après, il y en a peut-être qui font genre deux skins. Hein. Ça se trouve, il y a un studio de deux personnes quelque part dans un coin qui fait rien du tout. Bon. Apex Legends a 3 ans et ils font un truc où ils vous donnent 3 légendes si vous vous connectez à 3 semaines d'intervalle à partir du 8 ou du 9. Donc Apex Legends a 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il est sorti Apex Legends, c'est pas possible. Mon fils a 4 ans. Il n'est pas sorti quand mon fils avait qu'un an. Sega disparaît définitivement de l'arcade et... Ubisoft a décidé d'arrêter l'expérience avec Hyperscape. Ils avaient essayé de faire un Battle Royale différent, malheureusement. Ça n'a pas pris. C'est la semaine dernière qu'on se disait que Ubisoft suit très longtemps les jeux-services et qu'ils construisent les communautés, machin. Hyperscape, il devrait vraiment y avoir personne pour qu'il l'abandonne. Parce que, bon, mais c'est marrant de voir en parallèle Apex Legends et son succès et Hyperscape et son naufrage. Et un dernier petit mot sur les NFT avec cette interview dont vous avez certainement entendu parler d'Ubisoft qui parle de la réception qu'ils ont eue chez les joueurs avec les NFT avec un truc qui est vraiment... que moi j'ai trouvé lunaire honnêtement, où les responsables de cette initiative expliquent que en fait c'est les joueurs qui n'ont pas compris les bénéfices qu'amèneraient les NFT sans à aucun moment expliquer ce que seraient les bénéfices qu'apporteront les NFT. Alors, on a suffisamment critiqué les NFT, en particulier dans le jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu différent par ailleurs, en dehors des questions énergétiques, mais on les a suffisamment critiqués, donc on ne va pas repartir dans ces questions-là. Mais vraiment, dans l'interview, il y a une déconnexion avec la réalité de la situation qui est assez surprenante, où les gens disent « Non, mais vous n'avez pas compris ». En dehors du fait qu'on ait compris, vraiment. Enfin, je crois que tout le monde a compris ce qu'ils essayent de faire. Et ils n'expliquent pas. C'est genre, non, vous n'avez pas compris, vous allez voir, ça sera cool. Mais cool comment ? Ça sera cool, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et c'est marrant parce que, comme on en plaisantait en tout début d'émission, dans la même semaine, il y a eu 2 ou 3 studios différents qui ont annoncé puis arrêté des initiatives NFT, notamment Team 17, les développeurs de Worms, qui ont annoncé des NFT, et il y a eu genre 5 ou 6 partenaires, des studios partenaires qui ont dit « Non mais nous, on ne veut rien avoir avec ça, goodbye les gens ». Troy Baker a dit, on en plaisantait la semaine dernière, le « You can hate or you can create », Troy Baker, le voice actor de renom, qui a dit « Je vais faire des NFT avec tel partenaire ». Finalement, il a dit « Non, désolé, j'ai été un petit peu, c'était abusif de ma part de dire que vous étiez des haters juste parce que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Vous avez raison, bon, j'arrête tout avec les NFT ». EA, c'est Andrew Wilson qui a dit « Là où, il y a encore quelques mois, il disait « Les NFT sont le futur de notre industrie », maintenant il est en train de dire « Ouais, en fait, en fait, les NFT, on va pas y aller trop fort non plus, parce que c'est intéressant, peut-être on explore, mais bon, il y a vraiment un truc qui est en train de se passer avec les NFT dans le jeu vidéo. Moi, j'ai l'impression que l'atmosphère est tellement hostile. Je dis depuis un moment que je crois que ça prendra pas, parce que simplement, ça n'intéresse pas les joueurs dans le jeu vidéo, en plus des problèmes d'économie que ça pose, que je décris très longuement dans l'édito, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, j'ai l'impression que ça va plus loin. Les gens sont tellement contre l'inclusion des NFT, je crois que les initiatives à venir sont en train de... Enfin, les gens qui voudraient en implémenter sont en train de se dire « Attends, c'est tellement toxique. » C'est un petit peu comme si on était en train de dire « Nous, on aime bien le cancer, on voudrait encourager le cancer. » Mais vraiment, c'est plus possible au niveau marketing, au niveau image. Je crois que tu ne peux plus y toucher. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis, on va conclure là-dessus. J'ai l'impression que ça devient trop, quoi. Les gens ne peuvent plus.
Mais c'est assez surréaliste, surtout que les studios, que les éditeurs, surtout, tentent encore de trouver des moyens d'implémenter des NFT, vu tout le backlash qu'il y a. Enfin, c'est incroyable. Là, c'est fini.
Là,
même qu'ils essaient, enfin, tu vois, pour Worms, je trouvais encore que c'était le coup de trop. Ils se rendent bien compte que tout le monde se fait laminer à chaque fois dès qu'ils font une annonce, parce qu'il y a juste 3 forceurs qui veulent mettre des NFT dans les jeux vidéo, et souvent pour des raisons plutôt économiques que des raisons de gameplay. Donc, du coup, ça prend pas évidemment au niveau des joueurs, ils s'en prennent plein la face. Et la réponse hyper lunaire, comme tu le disais, effectivement, du côté d'Ubisoft, ça, je ne comprends pas aussi d'un point de vue de communication. Jamais, 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 tu dis à ton client ou à ton futur client qu'il n'a pas compris. Ubisoft, ça, c'est une erreur.
Ils sont en roue libre. Ouais, maintenant, impossible. C'est roue libre chez Ubisoft. C'est abusé.
C'est impossible. Même si tu penses que les gens n'ont pas compris, tu ne le dis pas. Enfin, ça, en termes de communication, c'est un truc de base. Jamais tu dis à ton client que c'est un con. Oui. Et je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça ridicule. Et ils sont dans leur délire, loin de la réalité du jeu. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant, parce que ça dénote une mécompréhension des attentes des joueurs. Je dis pas qu'il faut toujours satisfaire les joueurs et qu'il faut proposer que des jeux calibrés pour les joueurs.
Non, mais là, ça va plus loin.
On a besoin de surprises, on a besoin d'innovation, on a besoin de paris risqués, on a besoin d'inattendu. Mais là, ça va dans une direction qui n'est acceptée vraiment par pas grand monde, et du coup, c'est incompréhensible.
Oui. Donc, le seul point vraiment intéressant de cette situation, c'est la revente de jeux des matériels, et ils ont bien précisé dans leur document que c'était une option, mais que c'était pas pour le moment, quoi, clairement. Donc, oui. Voilà, forcément, les joueurs, ils peuvent que gueuler par rapport à ça. Mais voilà, on en a déjà tous tellement plein le cul de tout ce qui est microtransactions, skins et trucs comme ça.
Alors, sur ce point, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je sais que toi, tu es très, très anti-microtransactions. Moi, je pense qu'elles ont leur place dans le jeu vidéo, et que ça peut permettre d'amener les microtransactions, du contenu additionnel, sans avoir besoin de refaire un jeu ou de, tu vois, pour des gens qui en veulent. Mais bon, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir à côté de ça. Ce qui est sûr, c'est que les bénéfices des NFT... Bon, vous savez quoi, on va pas repartir sur les...
est blasé.
Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que bon, c'est cool, ça apporte du contenu supplémentaire à un jeu. OK. Le problème, c'est la valeur. La valeur ajoutée, un DLC, c'est ni peu ni moins que 5%, 10% d'un jeu complet vendu 50% d'un jeu complet. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, bah ça, après, si tu penses...
Exagéré.
Ouais, alors je trouve que 5 ou 10% c'est un peu limité, mais évidemment, le DLC c'est un moyen de monétiser un peu plus tes meilleurs fans. Mais idéalement, un DLC, quelle que soit sa nature, c'est du contenu additionnel pour des gens qui en veulent vraiment et qui sont généralement, si c'est bien fait, heureux de payer un peu plus pour avoir plus de contenu. Donc évidemment, il y a des gens qui le font pas très bien, mais naturellement, quand c'est pas bien fait, ben, les gens achètent pas parce qu'ils en veulent pas. Donc bon, peut-être qu'on reparlera un jour de la question des NFC, est-ce que c'est... Pardon, pas des NFC, ni des NFT, mais des DLC. Est-ce que c'est bien ou pas ? C'est peut-être un débat qu'on pourrait avoir intéressant. Mais oui, le NFT, l'ambiance est pas super propice en ce moment. Et je crois que ça va être tout pour notre épisode du rendez-vous jeu. Il y a quelques annonces de séries, de films, tout ça. Halo, on a vu des trailers. Il y a American McGee's Alice qui va être adapté par David Hayter. C'est enfin, un petit peu inattendu. It Takes Two qui pourrait avoir une série ou un film, des choses comme ça. Mais on va, je pense, s'arrêter là. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. C'était un excellent moment passé en votre compagnie. Avant de se quitter, évidemment, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Et du coup, on a deux invités qui sont là pour la première fois. Donc, j'ai l'embarras du choix pour l'honneur de la première place. On va dire... on va dire à Bugland, que je connais un petit peu moins. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi.
Sur YouTube, tout simplement, tapez Bugland, et voilà, c'est de l'actu jeux vidéo, des tests et des astuces, et il y a de tout.
Magnifique, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Lou, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Alors, je déroule tout. West France, principalement, mon employeur principal, où je suis notamment en charge de la rubrique gaming avec Marion Bardiaki, que je salue. On me retrouve aussi chez Gamekult, où je suis testeur depuis 15 ans maintenant, donc mon test de Pokémon... récemment par exemple. On me retrouve sur ma chaîne YouTube du coup Alex le serveur, là aussi du let's play principalement, jeux vidéo, tout ça, et puis en podcast quand je pourrais reprendre du coup avec Yann dans La Cartouche.
J'espère qu'il se porte de mieux en mieux, notre ami Yann. JK, où te retrouve-t-on sur Internet?
Oui, vous connaissez, ça n'a pas changé de la dernière fois, donc jeuxvideo.com pour des sujets plus tech, hein, un peu plus tech et hardware. Le journal du hardware aussi le vendredi à 16h30, il y en a un demain d'ailleurs, et le podcast ZQSD bien sûr, si vous voulez, du jeu PC.
Magnifique, merci beaucoup JK. Pour ma part, c'est NotePatrick sur notepatrick.com et vous avez tous les liens sur les réseaux sociaux, c'est NotePatrick partout, hein, donc c'est assez simple. Vous avez également le Discord qui est en lien sur notepatrick.com, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, où sur la chaîne YouTube vous pouvez retrouver les replays des enregistrements en live sur la chaîne Twitch tous les jeudis à midi. Et si vous voulez soutenir l'émission pour une somme modique mais un plaisir immense, oh là là, il faut que je trademark ça. C'est une somme modique mais un plaisir immense. Il faut le retravailler un petit peu, mais il y a un truc là. Eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvjeux, une somme modique mais un plaisir immense. Je vous fais de grosses bises à tous et toutes et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.